Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Prenez avec moi votre Bible, au chapitre 1 de Romains, et nous allons regarder les versets 16 et 17 ce soir. Permettez-moi de vous lire ces deux versets, et nous les commenterons alors que la parole de Dieu nous est ouverte. Paul dit, « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est la vérité la plus transformatrice qui n'ait jamais été mise entre les mains des hommes. Si nous comprenons vraiment et répondons à ces vérités dans ces deux versets, le temps et l'éternité sont totalement modifiés. Maintenant, je crois que ces deux versets forment le thème et la thèse de l'Épître aux Romains. En des termes brefs mais glorieux et complets, l'Épître est compressée dans ses vérités fondamentales. C'est une déclaration de l'Évangile du Christ. Paul commence par dire « Je n'ai point honte de l'Évangile ». Puis, il l'exprime en termes concis dans ces deux versets. Souvenez-vous maintenant que Paul a conclu une déclaration d'ouverture magistrale, une déclaration qui comporte en réalité deux parties. La première partie concerne l'Évangile de Dieu, le contenu de l'Évangile. La deuxième partie concerne la représentation personnelle de Paul de cet Évangile. Nous regardons le message dans la première partie du premier chapitre, puis le message dans la partie restante. Donc il a discuté de son message. Il s'est présenté comme le messager. Maintenant il cristallise la thèse de l'Épître, qui se déroulera dans les chapitres restants. L'Épître entière est en fait une extension de ce que nous voyons dans les versets 16 et 17. Il est donc essentiel que nous ayons une perspective appropriée sur ces deux versets. Je crois vraiment que jusqu'à présent, Paul s'est efforcé d'entrer en contact avec son public. Il s'est efforcé d'établir un lien, d'attirer l'attention des personnes. Maintenant qu'il a leur attention, il établit sa thèse. Regardez à nouveau le verset 16. Il dit « Je n'ai point honte de l'Évangile ». Cette phrase est la dernière déclaration de la section traitant de son ministère. Il clôt cette section en disant « Je n'ai point honte », puis il dit « de l'Évangile ». Et cela introduit son thème. Le thème, c'est l'Évangile du Christ. Paul n'a pas honte de l'Évangile du Christ. Tous les savants religieux, tous les philosophes de Rome, n'intimident pas Paul. Ils ne l'ont pas intimidé à Athènes. Ils ne l'ont pas intimidé à Corinthe. Ils ne l'ont pas intimidé à Éphèse. Ils ne l'ont même pas intimidé à Jérusalem. Ils ne sont pas sur le point de l'intimider ici. Il est fier de l'Évangile. Il est ravi du privilège de la proclamation. Il est absolument désireux de prêcher Jésus-Christ, même si c'est une pierre d'achoppement pour le Juif et une folie pour le païen. L'Évangile est toujours la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, et Paul n'hésite pas à le prêcher. Il a été emprisonné à Philippe. Il a été chassé de Thessalonique. Il a été introduit clandestinement depuis Bérée. On s'est moqué de lui à Athènes. Il était considéré comme un imbécile à Corinthe. Il n'était rien d'autre qu'un point irritant et douloureux à Jérusalem. Il a été lapidé lorsqu'il était en Galatie. Pourtant, il aura hâte de prêcher l'Évangile à Rome aussi. Je suppose que nous aimerions tous pouvoir nous identifier à Paul de la même manière. Mais le fait est pour vous et pour moi, très souvent, que nous avons honte de l'Évangile du Christ. Je ne pense pas que nous l'avouerons. Je ne pense pas que nous déclarions cela. Je ne pense pas que nous l'admettions facilement. Mais c'est ainsi que cela fonctionne. Parce qu'en ces temps où nous pourrions parler, nous ne parlons pas. Lorsque ces moments viennent où nous pourrions être audacieux, nous ne sommes pas audacieux. Nous faisons face à l'hostilité du monde. Nous sommes confrontés au caractère peu impressionnant de l'Évangile. Il parle de péché, de sang et de mort. Cela semble si insensé et si idiot pour les hommes. Nous avons peur de ce qu'ils pourraient penser, et nous avons donc tendance à garder le silence lorsque nous devrions parler. Mais Paul voyait calmement le dédain des incroyants. Il a compris le mépris et le ridicule de ceux qui ont rejeté Christ. Il a affronté la mort elle-même pour l'Évangile. Mais il n'a jamais eu honte du Christ. Timothée l'a fait. Mais Paul ne l'a jamais fait. Il ferait face à n'importe qui, n'importe quand, et prêcherait Jésus-Christ. Oh, comme la peur des hommes apporte un piège! Paul semblait être capable de surmonter cela, avec la puissance de Dieu. On m'a dit que si vous tracez sur le sol un cercle avec de la craie blanche et mettez une oie au milieu, l'oie ne traversera pas cette craie blanche. Elle restera dans ce cercle, selon ce que j'ai lu, et mourra avant de traverser cette craie blanche. Cela me rappelle un peu certaines personnes qui ressemblent à des oies. Ils ont autour d'eux des marques de craie de la peur de la coutume, de la peur des conventions, de la peur du ridicule, de la peur d'être considéré comme insensé, de la peur d'être rejeté, et ils ne sortent jamais de ce cercle, parce qu'ils ont peur. Les personnes disent des choses idiotes sur l'Évangile et sur le Christ, mais ils n'ouvrent jamais la bouche, mais pas Paul. Malheureusement, la peur de l'opposition et la peur du mépris du monde nous amènent souvent à garder le silence, ou bien cela nous conduit à corrompre le message et adapter le message aux hommes. C'est triste. Je partageais avec les hommes de Moody cette semaine qu'il y a un nouveau mouvement en Amérique appelé les ministères santé et richesse. Ils promettent aux personnes qu'en Christ, vous obtenez la santé et la richesse. Vous obtenez un confort physique et des biens. Voulez-vous savoir ce qui me fascine? Dans Matthieu chapitre 8, un disciple est venu vers Jésus et a dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus a dit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Il a dit, « Je ne t'accepte pas, parce que tu cherches le confort, tu cherches la facilité, et tu cherches toutes ces sortes de choses pour rendre ta vie physique confortable. Et je n'offre pas cela. » Jésus l'a rejeté. Il voulait du confort. Jésus a dit non. Certains disent aux personnes aujourd'hui que Jésus vous rétablira. Jésus vous donnera la guérison. Vous ne serez jamais malade. Tu n'auras jamais de rhume. La vie sera heureuse dans la dimension physique. Ils offrent la même chose que Jésus a rejetée. Un deuxième homme est venu et a dit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. » Jésus a dit, « Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Le fait était que le père de l'homme n'était même pas encore mort, mais il voulait traîner pour obtenir l'héritage. Il est venu vers Jésus et a dit, « Je viendrai, mais laisse-moi récupérer mon argent. » Jésus l'a rejeté. Ces personnes font le jeu des mensonges de Satan. Les choses qui éloignent les hommes du Christ sont le confort personnel. Ils ont peur de renoncer au confort, les effets personnels, ils ont peur de les perdre. Voici que ces faux enseignants viennent et offrent ce qui empêche les hommes de venir à Christ. Ainsi, ils contournent le vrai Évangile pour un faux. Nous devons confronter les personnes à l'Évangile, sans avoir honte de parler, sans honte de la vérité de Christ, et sans la compromettre en accueillant le péché de l'homme. Maintenant, pourquoi Paul était-il audacieux? Voici la clé. Pourquoi était-il audacieux? Il le dit au verset 16. Il n'avait point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Maintenant, nous allons au cœur de l'apôtre, au cœur de l'épître. Il est audacieux de prêcher à cause de ce qu'est l'Évangile, à cause de ce que fait l'Évangile. La raison pour laquelle Paul n'est pas vaincu par la tentation d'avoir honte de l'Évangile, bien au contraire, la raison pour laquelle il le proclame si joyeusement, si anxieusement, c'est parce qu'il est puissant, qu'il change des vies. Il le sait, il a vu cela, et il le croit. Bien sûr, c'est une pierre d'achoppement. 1 Corinthiens 1. Bien sûr, c'est de la folie, mais c'est aussi la puissance de Dieu pour le salut de ceux qui croient, et il le sait. Cela me rappelle la vieille histoire que je vous ai racontée il y a quelques années à propos du vendeur d'aspirateurs qui se rendait à la ferme. Il est entré avec son approche typique du bonimenteur et n'a pas attendu que la dame dise un mot. Elle ouvrit la porte et il était dans le salon. Il a dit, « Madame, je veux vous parler de cet aspirateur. Cela va tout aspirer dans cette maison. Vous devez faire attention. Vous pourriez même perdre votre sol. Il est si puissant. Je vais... » Elle a commencé. « Attendez un... » Et il a continué. Il a dit, « Je vais vous montrer tout ce que cela va faire. » Il a vidé de son sac des cendres au milieu du sol, des ordures, des rebuts, etc. Il a dit, « Madame, Si cet aspirateur n'aspire pas cela en 2 minutes, je le mangerai avec une cuillère. » Finalement, elle a eu l'occasion de parler et elle a dit « Vous feriez mieux de commencer à manger. Nous n'avons pas d'électricité. » Je veux dire, avant de vendre le produit, il vaut mieux savoir s'il existe du courant pour le faire fonctionner, n'est-ce pas? La raison pour laquelle l'apôtre Paul n'avait pas honte était parce qu'il connaissait la puissance de l'Évangile. Il savait que cela pouvait changer des vies malgré ce que les hommes pensaient. Sa passion suprême était de voir les hommes sauvés. Lui, dans Romains 9, dit même qu'il pourrait presque se souhaiter d'être maudit pour le plaisir de voir le salut de son peuple. Il ne se souciait pas de son confort personnel. Il ne se souciait pas de sa réputation. Il ne se souciait pas de sa popularité. Et même sa vie n'offrait aucun compromis à un évangile clairement confronté. Il prêcherait l'évangile parce qu'il savait ce qu'il pouvait faire. Cela pourrait changer les personnes. Maintenant, cela nous amène à son introduction du thème. Comprendre l'évangile du Christ nous vient en comprenant chaque mot-clé dans ce passage. Au verset 16, il y a le mot « puissance ». Et c'est ce que nous voulons examiner en premier. Le premier mot de grande importance est « pouvoir ». Le deuxième mot est « salut ». Le troisième mot est « croix ». Le quatrième, au verset 17, est « la justice ». Si vous comprenez la signification, la connexion et la transition de ces quatre termes, vous comprenez l'Évangile. Tout d'abord, le premier mot-clé du vocabulaire divin de l'Évangile du Christ est que c'est la puissance de Dieu. La bonne nouvelle concernant Jésus-Christ a du pouvoir. Le mot est « dunamis ». Nous en tirons notre mot « dynamite ». Paul a à l'esprit le fait que l'Évangile du Christ porte en lui la toute-puissance de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant est derrière cela, opérant dans la régénération d'une personne. Les hommes aimeraient changer, le saviez-vous? Je crois cela. Vraiment. Toute publicité qui passe dans le monde est basée sur un présupposé, à savoir que les personnes veulent des choses différentes de ce qu'elles sont. Ils veulent mieux paraître, mieux se sentir, mieux penser, vivre de meilleures expériences. Ils veulent changer de vie. Fondamentalement, les gens veulent changer de vie, parce que c'est une motivation humaine fondamentale. Il y a un appel à cela. Les gens, au fond, veulent vraiment que les choses soient différentes. Mais ils sont totalement impuissants à changer les choses. Dans Jérémie 13, 23, Jérémie dit « Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumé à faire le mal? Vous avez à peu près autant de chances de changer votre cœur. Les hommes sont impuissants. Ils ne peuvent rien faire pour ce qu'ils sont. Ils ne peuvent rien changer. Ils peuvent faire quelques réformes ici et là et fonctionner un peu différemment. Mais les vrais changements ne se produisent jamais. Jésus a dit dans Matthieu 22, 29, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Il a dit cela aux religieux de son temps. « Vous ne connaissez même pas la puissance de Dieu. Vous ne savez pas ce qu'est le pouvoir. L'Évangile de Jésus-Christ a le pouvoir de changer les hommes, de les retirer du péché, de Satan, du jugement, de la mort et de l'enfer. » Les hommes essaient d'autres choses pour se changer. La Bible dit que certains hommes croient qu'ils peuvent être changés en accomplissant de bonnes œuvres, les actions de la loi. Mais la Bible dit que les actes de la loi ne peuvent pas sauver. La Bible dit que la chair ne peut pas sauver. La Bible dit que l'Église ne peut pas sauver. La Bible dit que la religion ne peut pas sauver. Car il n'y a pas non plus de salut en aucun autre nom. Car aucun autre nom sous le ciel n'est donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seule la puissance de Dieu peut changer les personnes. Il n'y a pas d'autre chemin. Dans Romains 5, 6, « Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » En d'autres termes, l'homme est impuissant, il ne peut pas se changer. Il est complètement piégé et incapable de faire quoi que ce soit. Dans Romains 8, 3, « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils, qui seul pouvait le faire. En d'autres termes, vous pouvez prendre l'homme et même lui donner de bonnes normes, lui donner de bonnes règles et de bons principes. Et il ne peut pas changer. Cela ne peut pas être fait. C'est la frustration de l'homme. Dans Jacques 1, 18, il est dit « Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. » En d'autres termes, ce que l'homme ne peut faire pour lui-même, Dieu peut le faire pour l'homme. Dans 1 Pierre, chapitre 1, c'est essentiellement la même chose. Il dit que nous sommes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, non d'une semence humaine en décomposition, mais d'une semence incorruptible par la parole de Dieu. Ainsi, la parole de Dieu peut faire ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. C'est le principe de base de l'Évangile. L'homme est pécheur et incapable de remédier à sa condition. L'Évangile devient alors une force. Je pense que le mot dynamis met l'accent sur la force plutôt que sur le processus. C'est la puissance dans le sens où Dieu est la source d'une puissance incroyable, une puissance illimitée qui peut transformer des vies. Maintenant, regardez avec moi pendant un moment 1 Corinthiens 1:18. Et je veux regarder spécifiquement l'écriture que j'ai mentionnée à quelques reprises, et juste brièvement. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Je veux dire, un Christ crucifié est tout simplement ridicule. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Vous voyez, c'est le point clé. L'Évangile peut être une folie pour les hommes, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Verset 23. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Encore une fois, la même emphase. Vous savez, les païens se moquaient des chrétiens. Les païens de Rome et de Corinthe se moquaient d'eux. Vous voyez, le principe clé de leur propre religion était que leur Dieu était fondamentalement indifférent. Ils étaient simplement là, et ne se souciaient pas d'eux. Ils étaient apathiques, détachés et lointains. L'idée d'une incarnation de Dieu était tout à fait ridicule pour eux. En fait, en faisant des fouilles autour de Rome, les archéologues ont trouvé des choses intéressantes. Sur le Palatin, qui est l'une des 7 collines de Rome, ils sont tombés sur une caricature de l'époque chrétienne. Elle représente un esclave qui s'incline devant une croix. Il est dit sous ce dessin particulier, « Alexamenos adore son Dieu. C'est un âne qui est crucifié sur la croix. » Cela nous en dit un peu plus sur l'attitude des Romains à cette époque envers le christianisme. Ils pensaient que c'était absolument ridicule, de la folie. Quelque part, autour de l'année 178, Celsus a écrit une attaque amère contre le christianisme. Il a dit que le point de vue chrétien était qu'aucune personne cultivée ne s'approche, aucun sage, aucun sensé, pour tout ce genre de choses que nous comptons comme mauvais. Mais si un homme est ignorant, qui manque de sens et de culture, s'il y en a un qui est un imbécile, qu'il en vienne hardiment au christianisme, c'était pour les imbéciles, dit-il. Des chrétiens, écrit-il en outre, nous les voyons dans leur propre maison, les couturiers en laine, les cordonniers et les foulons, les personnes les plus ignorantes et les plus vulgaires. Il a dit que les chrétiens sont comme une nuée de chauves-souris. Ils sont comme des fourmis qui rampent hors de leur nid. Ils sont comme des grenouilles qui tiennent un symposium autour d'un marais. Il a dit qu'ils étaient comme des vers qui se recroquevillaient dans la boue. Un homme sympa, ce Celsus. Puis il a dit, les chrétiens adorent un mort. C'est de la folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la quoi? La puissance de Dieu. Le monde se moque de nous. Il se moque de nous. Mais nous savons ce qui est le meilleur, n'est-ce pas? Parce que c'est la puissance de Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, Paul poursuit. Il dit, « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, quoi? Crucifié. Il avait un message, et c'était le message même que vous méprisiez. C'est la croix. Moquez-vous si vous voulez. C'est toujours la puissance de Dieu, et donc je prêche la croix. Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. J'ai vu le message de la croix transformer des centaines, des milliers de personnes au cours de ma vie. Laissons le monde dire ce qu'il veut. Les preuves sont là, et la croix nous transforme. Plus loin, dans 1 Corinthiens 4, 20, Paul dit, « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Vous savez, la chose la plus importante dans ma vie est de savoir que Dieu m'utilise comme un canal pour changer les personnes pour le temps présent et pour l'éternité. C'est incroyable. Je regarde ma propre vie. J'ai certaines faiblesses avec lesquelles je lutte dans ma propre vie et je ne peux pas vraiment faire grand-chose à leur sujet. J'ai des limites dans mon esprit J'ai des limites dans mon corps physique. J'ai des limites dans mes perceptions. Je ne peux rien faire pour eux. Et pourtant, Dieu m'utilise pour être l'outil qui change l'être entier de quelqu'un. C'est incroyable. C'est la puissance de Dieu. Donc, derrière l'Évangile se trouve la puissance. Quelle est la puissance de l'Évangile? Je vous le dirai. La Bible dit que Dieu a une grande puissance. Psaume 79:11. La Bible dit que Dieu a un pouvoir puissant. Psaume 89:13. La Bible dit que Dieu a un pouvoir glorieux. Exode 15:6. Il a un pouvoir puissant. Job 9:4. Il a une puissance éternelle. Ésaïe 26:4. Il a un pouvoir souverain. Romains 9:21. Il a un pouvoir efficace. Ésaïe 43:13. Il a un pouvoir irrésistible. Deutéronome 32:39. Il a un pouvoir incomparable. Psaume 89:8. Il a un pouvoir insondable. Job 5:9. Il a du pouvoir. Jérémie 10:12 dit « Il a créé la terre par sa puissance ». Jérémie 27:5 dit « C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu ». Dans le psaume 33:8-9, il est dit « Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Quelle puissance ! Par le même commandement puissant, le Seigneur maintient l'univers. Derrière chaque miracle de la Bible se cache la puissance de Dieu. Dieu peut séparer la mer. Dieu peut apporter de la nourriture du ciel. Miracle après miracle, il montre sa puissance. Mais je crois vraiment que la plus grande expression de sa puissance se trouve dans sa puissance de sauver, de transformer les personnes, de changer leur nature, leur temps présent et leur éternité. Psaume 106:8-9. Mais il les sauva à cause de son nom, pour manifester sa puissance. Il menaça la mer rouge, et elle se dessécha, et il les fit marcher à travers les abîmes, comme dans un désert. Vous voyez, la manifestation de la puissance vient dans le salut. Le Nouveau Testament présente le même pouvoir. Dans Matthieu 28:18, il a dit « Tout pouvoir m'a été donné. » Il avait le pouvoir de chasser les démons. Il avait le pouvoir sur la maladie, sur chaque maladie. Le pouvoir de guérir. Il avait le pouvoir sur l'univers pour subvenir aux besoins des personnes. Il avait le pouvoir d'apaiser la tempête, le pouvoir de marcher sur l'eau. Il avait le pouvoir sur la mort. Il a appelé Lazare hors de la tombe. Il a donné la vie au fils mort de la veuve de Naïm. Il a donné la vie à la fille de Jaïrus. Il est ressuscité des morts. Mais surtout, Romains 1:16 le dit, il avait une puissance de Dieu pour le salut. Il avait le pouvoir de sauver. C'est le premier mot clé, pouvoir. Vous ne devriez jamais, bien aimé, écoutez-moi bien, vous ne devriez jamais, et moi non plus, avoir la pensée d'avoir honte de l'Évangile du Christ, car c'est la puissance de Dieu. Laissez-le voler. Deuxième mot clé, salut. C'est la puissance de Dieu sur le sautérien. Une puissance de Dieu pour le salut. Oh, c'est un excellent mot. La puissance est vue dans le salut parce que les hommes, dit Éphésiens 2, sont morts. Et que l'acte de salut de Dieu les rend vivants, pour vivre éternellement, purifiés du péché et aptes au royaume de Dieu. Le mot salut est utilisé 18 fois par Paul, 5 fois dans Romains, et la forme verbale, 29 fois par Paul, 8 fois dans Romains. C'est un mot clé. Il signifie délivrance. J'ai prêché une fois aux jeunes lors d'un rassemblement, et j'ai utilisé l'expression être sauvé. J'ai dit, vous les jeunes, vous avez besoin d'être sauvé. Et quelqu'un est venu après et m'a dit, vous ne devriez pas utiliser ce mot. Ce n'est pas contemporain. Je ne l'oublierai jamais. C'était une dame. Elle a dit, ce mot n'est pas contemporain. Les enfants ne peuvent pas vraiment creuser ce mot. Vous devez utiliser un meilleur mot. Voulez-vous que je vous dise, je ne pourrais pas penser à un meilleur mot. Il vient de la parole de Dieu. Vous savez, ma première réaction a été, madame, c'est la parole de Dieu. Je ne suis pas intéressé par votre parole. C'est la parole de Dieu. Que signifie être sauvé? Ça signifie être délivré. De quoi? Du péché, de Satan, du jugement, de la mort et de l'enfer. Et seul l'Évangile de Christ a le pouvoir de faire cela. Le passage sain et sauf de l'homme à travers les épreuves humaines et son passage en toute sécurité lors du jugement divin, ainsi que son entrée dans la béatitude éternelle, sont liés à ce salut qui inclut le pardon. Il comprend l'échappement de la colère. Il inclut la vie dans l'esprit, la résurrection, l'éternité. L'Évangile est la puissance effective d'un Dieu actif dans le monde pour apporter la délivrance aux hommes de la colère de Dieu, du péché et de Satan, du jugement, de la mort et de l'enfer. Je crois que la culture dans laquelle Paul a écrit était prête pour ce message. Je pense qu'elle cherchait le salut. Les hommes le cherchent encore aujourd'hui. Oh, ils pensent qu'ils ont besoin d'un salut économique, d'un salut politique ou d'un salut social. Ils ont seulement besoin d'améliorer leur vie et leur société. Mais ils recherchent le salut. Ils le faisaient à ce moment-là, vous savez. Il fut un temps, à l'époque de Paul, où la philosophie grecque se tournait de plus en plus vers ce qui était à l'intérieur. Ils regardaient l'homme et disaient « Les choses ne vont pas avec l'homme. Nous avons besoin de quelque chose pour changer l'homme. Nous essayons de trouver cela maintenant. Seulement, nous essayons de le trouver en stimulant peut-être le cerveau, en le contrôlant en quelque sorte, pour que nous puissions le changer. » Ils regardaient toutes sortes de choses à l'époque de Paul. Ils se sont tournés vers une sorte de philosophie morale. Par exemple, Épictète, l'un des écrivains de l'époque, appelait sa salle de conférence « l'hôpital pour l'âme malade ». Épicure a appelé son enseignement « la médecine du salut ». Il cherchait quelque chose pour délivrer l'homme de la constance du péché. Sénèque, dont la vie coïncidait avec la vie de Paul, disait que tous les hommes cherchaient « ad salutem », vers le salut. « Ce dont nous avons besoin, dit-il, c'est d'une main qui nous est tendue et qui nous relève. » Les hommes, a-t-il dit, sont extrêmement conscients de leur faiblesse et de leur inefficacité dans les choses nécessaires. Il s'est dit qu'il était un homo non tolerabilis, un homme qu'il ne fallait pas tolérer. Il a dit que les hommes aiment leurs vices, mais qu'ils n'apportent que le désespoir, et que les hommes ont besoin de salut. Les hommes en ont toujours eu besoin. Mais parfois, quand ils entendent l'Évangile, ils pensent que la réponse semble tellement stupide. Mais c'est la puissance de Dieu. Le salut a de nombreuses dimensions. Lorsqu'un homme ou une femme est délivré, il est délivré de l'infection de la vie. Nous sommes sauvés, dit Actes 2:40, d'une génération tordue et perverse. Nous sommes enduits, si vous voulez, d'un antiseptique divin. Le salut ne vient pas seulement de l'infection de la vie, mais il vient de la perte. Jésus a dit qu'il viendrait chercher et sauver ceux qui étaient quoi ? Perdus. Vous voyez, l'homme est sur la mauvaise route. Il ne sait pas où il va, d'où il vient, ni où il est. Il est perdu. Tout d'un coup, quand il vient à Christ, il sait instantanément d'où il vient, et où il va, et exactement où il est. Cela signifie le salut du péché. L'homme est esclave du péché jusqu'à ce que Christ le libère. Cela signifie le salut du jugement inévitable de Dieu. En ce sens, c'est un salut eschatologique qui culmine dans une éternité triomphante. Les divers aspects du salut, en passant, seront dévoilés tout au long de l'épître des Romains. Je suppose qu'il suffit à ce stade de s'arrêter et de dire qu'il faut la puissance divine pour accomplir ce salut, parce que l'homme est tellement perdu, tellement infecté, tellement condamné et damné, et tellement mort dans le péché, qu'il faut la puissance de Dieu pour éclater et traverser cela. Je ne peux pas le faire seul. Dieu caractérise l'homme dans la Bible comme étant grossièrement, volontairement, ignorant, comme étant volontairement indulgent et réticent à tout abandonner. Il voit les hommes tout au fond de la fausse religion, couverts et dirigés dans tout ce qu'ils font par Satan, remplis de mauvais motifs. Ils se trompent, ayant confiance en leurs propres bonnes actions. Leurs œuvres sont au mieux des chiffons sales. Ils aiment les choses temporaires du monde. Ils détestent la vérité. Comme des créatures fières, ils sont en quête du plaisir, coupables et lubriques. En tant que tels, ils n'ont pas le droit d'entrer dans le royaume de Dieu. Ils doivent donc être délivrés de tout cela. Seule la puissance de Dieu peut le faire. Alors Paul dit, « Ma thèse est que la puissance de Dieu peut apporter le salut. Comment ? » C'est le prochain mot-clé. « Comment ? » Verset 16. « À tous ceux qui croient, foi. » Et le troisième mot-clé, ou croyance. Je veux dire, si la puissance de Dieu peut le faire. Pour qui le fait-elle ? Pour tous ceux qui croient. La puissance du salut n'opère que par la foi. C'est tout. Là où il y a la foi, il y a la puissance de Dieu opérant dans le salut. Vous dites, qu'est-ce que la foi ? La foi, c'est croire. Vous vivez tous par la foi chaque jour de votre vie. Vous ouvrez votre robinet, vous remplissez le verre et vous le buvez. C'est la foi. Vous ne savez pas ce qu'il y a là-dedans. Vous n'avez aucune idée de ce qui se joue dans vos tuyaux. Je me souviens avoir lu un article dans une sélection du Reader's Digest. Une ville de l'État de Kansas avait un très grand réservoir d'eau, et l'eau leur était amenée par ce réservoir. Elle était pompée d'un puits pour remplir le réservoir, puis elle sortait du réservoir pour être distribuée dans la ville. Ils ont adopté un système canalisé, ont vidé le réservoir, et ils ont trouvé toutes sortes de créatures étranges au fond du réservoir. Ils ont tous eu une dysenterie rétroactive. Ils avaient vécu par la foi. Mais ils avaient la foi en la mauvaise chose. J'ai pris l'avion pour Los Angeles hier, et Bill, moi et Monty étions assis dans cet avion quand, tout d'un coup, pour une raison ou une autre, l'avion est descendu tout droit pendant un moment, et tout le monde est devenu religieux instantanément. Je ne savais même pas qui était là-devant pour piloter cet avion. En fait, je ne savais même pas s'il y avait quelqu'un. Vous voyez le pilote descendre dans l'allée en serrant la main à tout le monde, et quelqu'un dit toujours « Qui pilote cette chose ?» Nous vivons par la foi tout le temps. La foi et la confiance. Vous allez au restaurant et vous mangez ce qu'il vous propose. Nous vivons tous par la foi. Je veux dire, c'est la seule façon de survivre. Dieu l'a mis dans le cœur d'un homme afin qu'il comprenne comment vivre par la foi. La foi en la dimension spirituelle est bien différente de ce genre de foi. Mais c'est néanmoins la même idée, c'est faire confiance et croire. Et oui, la puissance de Dieu peut sauver. Mais cela ne sauvera que ceux qui croient. Ceux qui croient quoi ? Croyez en votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Cela signifie que vous croyez qu'il est celui qu'il a dit qu'il était, qu'il est mort pour la raison qu'il a dit qu'il est mort, et qu'il est ressuscité de la tombe. Si vous croyez cela, vous avez la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par quoi ? La foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu, pour que personne ne se glorifie. La foi. Le salut ne professe pas le christianisme. Ce n'est pas cela. Le salut n'est pas le baptême. Le salut n'est pas une réforme morale. Le salut ne vient pas de votre présence à l'Église, de votre capacité d'obéir aux règles. Ce n'est pas l'autodiscipline et la retenue. Ce n'est pas la morale. Tant de personnes pensent qu'elles sont sauvées pour les mauvaises raisons. Je me suis assis dans l'avion à côté d'une dame qui allait à Chicago. J'ai vécu toutes sortes d'expériences cette semaine, qui sont incroyables. Je me suis assis à côté de cette dame de 78 ans. Je me suis assis à côté d'elle, et elle avait un petit sourire sur son visage. Elle était allée voir sa fille en Californie. Maintenant, elle retournait quelque part, dans le nord du Michigan. Après un certain temps, elle s'est aperçue que j'étais un homme religieux. Elle a dit « Êtes-vous un révérend ?» J'ai répondu « Je ne dirai pas que je suis un révérend, mais je suis pasteur. Allez-vous dans une église ?» Elle a dit « Je suis catholique. » « Oh !» j'ai dit « Connaissez-vous Jésus-Christ comme votre sauveur personnel ?» Elle a répondu « Je suis allé à l'église catholique toute ma vie. » J'ai dit « C'est intéressant. » Elle a continué « Savez-vous que l'église catholique a changé ?» J'ai répondu « C'est vrai. Elle a beaucoup changé, n'est-ce pas ?» Elle a dit « Oui, je n'aime pas cela. J'aimais mieux l'ancienne façon de faire. » Elle a 78 ans. Vous savez, c'est difficile quand on ne suit plus les traditions. J'ai continué « Que voulez-vous dire par là ?» Elle a dit « Vous savez ce qu'ils font maintenant ? Les messes sont en anglais. » J'ai dit « Est-ce un problème ?» Elle a répondu « J'aimais mieux quand je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. » C'est exactement ce qu'elle a dit. Elle continue « Alors je pouvais y aller et simplement méditer à l'intérieur de moi. » J'ai dit « Qu'avez-vous gagné en faisant cela ? » Il y avait une tranquillité quand je pouvais passer du temps à méditer. J'ai continué « Ne pensez-vous pas qu'il est important de connaître les principes de la parole de Dieu ? Moi, je pense que nous devrions savoir certaines choses. La conversation n'a pas été aussi fructueuse que j'aurais aimé. Mais cela en est arrivé au point où il était évident que sa sécurité résidait dans le fait qu'elle allait dans une église. Elle ne se souciait même pas si elle comprenait ce qu'il disait. En fait, elle aimait mieux quand elle ne comprenait pas. J'ai dit, « Vous savez, madame, une seule chose compte. À votre âge, lorsque vous quittez cette vie, vous devez être prête à rencontrer Dieu, parce que vous connaissez son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe dans quelle église vous êtes allé. Je ne sais pas. J'espère qu'elle y pense. Le salut ne passe pas par l'église. Le salut vient parce qu'un homme ou une femme reconnaît qu'il n'a pas de ressources, qu'il se voit perdu et défait, et il voit la saleté et la difformité de son péché. Il perçoit la pourriture de son cœur et la pollution de sa nature, et il est attiré vers Christ, le seul remède. Il voit celui qui est mort pour son péché, qui a vaincu son péché, qui a payé le prix, et qui veut lui donner une nouvelle vie. Il dit « Je crois, je crois ». Peu importe qui vous êtes, vous savez. Il dit au verset 16 « Quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec ». Oui, la primauté du salut a été étendue aux juifs. Le salut a une importance primordiale pour les juifs, car ils étaient le peuple spécialement choisi par Dieu. C'est d'abord aux juifs que le Messie est venu et a dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Oui, c'est à eux qu'il est venu, car les signes de préparation pour la pleine révélation de l'Évangile ont été posés avec Israël, et ainsi l'Évangile est, par excellence, l'Évangile pour les Juifs. Le grand commentateur, Robert Haldane, a une réflexion claire à ce sujet. Écoutez pendant que je lis ce qu'il a écrit. Depuis l'époque d'Abraham, leur grand ancêtre, le Juif s'était distingué de tout le reste du monde par ses nombreux et grands privilèges. C'était de leur haute distinction que vint le Christ, qui était Dieu béni pour toujours. Ils étaient donc, comme leurs parents, la famille royale du genre humain. À cet égard, plus élevés que tous les autres, ils ont hérité de la terre d'Emmanuel. Alors que l'alliance évangélique, et par conséquent la justification et le salut, étaient également pour tous les croyants, les Juifs occupaient le premier rang en tant qu'ancien peuple de Dieu, tandis que les autres nations étaient étrangères aux alliances de la promesse. La prédication de l'Évangile devait leur être adressée d'abord et, au début, à eux seuls. « Je suis envoyé, a dit Jésus, qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais il a ordonné que la repentance et la rémission des péchés soient prêchées en son nom parmi toutes les nations à partir de Jérusalem. Ainsi, alors que les Juifs et les païens s'étaient unis dans la participation à l'Évangile, les Juifs n'ont pas été privés de leur rang, puisqu'ils ont été les premiers appelés. Puis il dit ceci, « La prédication de l'Évangile aux Juifs a d'abord servi diverses fins importantes. Il a accompli les prophéties de l'Ancien Testament. Cela manifestait la compassion du Seigneur Jésus pour ceux qui ont versé son sang, à qui, après sa résurrection, il a ordonné que son Évangile soit d'abord proclamé. Cela montrait qu'elle devait être prêchée au chef des pécheurs et prouver l'efficacité souveraine de son expiation pour expier la culpabilité même de ses propres meurtriers. Il était également convenable que l'Évangile soit prêché d'abord là où il avait été fondé. Bien sûr, aux Juifs d'abord, mais aussi aux païens. Le salut de Dieu n'était limité à aucune nation, à tout le monde, juif ou païen. Maintenant, suivez-moi ici très attentivement. L'Évangile du Christ a du pouvoir. Il a le pouvoir de sauver. Il a le pouvoir de sauver celui qui croit. Mais comment le peut-il, même si quelqu'un croit? Comment cela peut-il changer quelqu'un? Parce que, verset 17, parce qu'en lui, c'est-à-dire dans l'Évangile, est révélée la justice de Dieu. Vous voyez, la raison pour laquelle l'Évangile peut sauver est que lorsque vous croyez, la justice de Dieu vous est révélée. En d'autres termes, il devient le vôtre. C'est ainsi que cela peut arriver. Vous dites, l'homme est si pécheur, si mauvais, si désespéré, si impuissant, que même s'il croyait, et même si l'Évangile a le pouvoir de sauver, comment le peut-il? Cela peut, non pas parce que nous devenons tout à coup en nous-mêmes justes, mais parce que, tout à coup, nous est révélée la justice de Dieu. Cela nous amène au quatrième mot, justice. En plus de la foi, en passant, ce mot est utilisé plus de 60 fois chez les Romains. C'est un mot clé. Nous le verrons encore et encore. La raison pour laquelle les pouvoirs de l'Évangile sont libérés dans le salut par la foi est parce que la foi, écoutez ceci, active la révélation de la justice de Dieu. Si je veux être juste, je n'ai pas de justice à moi. Dieu doit me donner sa justice. Il le fait. Vous voyez, Jésus a pris notre péché et en échange, Dieu nous a donné sa justice. C'est pourquoi il est dit que Christ est devenu péché pour nous, afin que nous puissions devenir la justice de Dieu en lui. Lorsque Paul dit que la justice de Dieu est révélée, il ne veut pas dire qu'elle vient d'être révélée à l'esprit humain. Il ne veut pas dire qu'elle est juste abordée dans l'histoire humaine. Il veut dire qu'elle se révèle spécifiquement dans l'action et l'opération de la régénération. C'est pourquoi l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, parce que cette croyance active la justice de Dieu. Au fait, la meilleure traduction est la justice de Dieu. La justice de Dieu est révélée. Peu importe ce que je croyais, je ne pourrais pas être juste par moi-même, n'est-ce pas? Je pouvais croire, et croire tout ce que je voulais croire. Mais je ne peux toujours pas être juste selon la norme de Dieu. Je ne peux pas être parfaitement saint. Je ne peux pas être sans péché. C'est le standard parfait. Alors Dieu dit, « Si vous croyez simplement, je vous donnerai ma justice. » Comment peux-tu faire cela, Dieu? Parce que Jésus a porté votre châtiment. Le prix est payé. Je vous donne ma justice. Dieu exige de l'homme ce que l'homme ne pourrait jamais payer. Il exige la sainteté parfaite et absolue. Certaines personnes pensent que cela pourrait être injuste. Comment Dieu pourrait-il exiger cela? Pourquoi n'abaisse-t-il pas la norme? Disons qu'il a baissé un peu la norme. Disons que Dieu a dit, « Pour être sauvé, vous devez être très intelligent. » Serait-ce juste? Non, ce serait injuste pour les gens qui ne sont pas très intelligents. S'il disait que vous deviez être riche. Non, ce serait injuste pour les pauvres. Non, vous devez être moral. Ce ne serait pas très juste pour les gens méchants et immoraux. Non, vous voyez, il a établi une norme à laquelle personne ne pouvait se qualifier. Donc personne ne peut se vanter. Personne n'a besoin d'être laissé de côté. Puis il a dit, « Je vous donnerai ma justice, peu importe qui vous êtes. » Dans Romains 3, 21, alors que nous arrivons à une conclusion, il est dit, « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Elle est en dehors de toute œuvre ou observation de la loi. La justice de Dieu est manifestée. Comment ? » Verset 22. « Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. » Il est là encore. Même principe, même vérité. Regardez 4, 3. C'est même vrai dans l'Ancien Testament. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé quoi ? À justice. Dans Philippiens 3, 8, 9, je veux juste mentionner ceci. Et même, dit Paul, je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Puis ceci, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Vous voyez, c'est le message, c'est la gloire de l'Évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut. Elle est activée par la foi, et la foi l'active, parce que la foi libère la manifestation de la justice de Dieu en notre nom. Le comte Zinzendorf a écrit ces mots. Vous les connaissez et vous les aimez. Jésus, ton sang est ta justice, ta beauté sont ma robe glorieuse. Au milieu de mondes enflammés dans ces rangées de joie, je lèverai la tête. Audacieux serai-je, debout à ton grand jour, car ma charge sera effacée. Je suis totalement absous et délivré de la peur, du péché, de la culpabilité et de la honte. Par toi, Jésus, par ton sang et ta justice. Il dit donc au verset 17, la justice de Dieu est révélée. Et ensuite cette petite phrase, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Que signifie par la foi pour la foi? Je pense qu'il a la même idée que tous ceux qui croient. Vous pourriez voir les choses de cette façon. Il dit, la justice de Dieu est révélée par, regardez ceci, la foi pour la foi. Pour la foi de n'importe qui, ou la foi de chacun, sans limite. Je le vois se déplacer à travers le monde par la foi, pour la foi. Tout comme c'était le cas dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas nouveau. Habacuc 2.4. Mais le juste vivra par sa foi. Rien de nouveau. Abraham a cru en Dieu, et cela lui a été imputé à justice. Nulle action venant de moi ne peut accomplir la loi, car mon zèle ne peut rien, et je pleurerai en vain. Rien n'enlève le péché. Quelle est la ligne suivante? Toi seul peux, quoi, m'en sauver? Cela vient du cantique, Rock of Age. Christ, rocher percé pour moi. Ainsi Paul présente le thème de l'Évangile. La puissance, le salut, la foi et la justice. J'espère que vous connaissez le Christ. J'espère que vous mettez votre foi en lui. Je termine avec ceci. L'un de mes missionnaires préférés est John J. Patton. Il est allé aux Nouvelles-Hébrides, un endroit rempli de cannibales. Quand il est arrivé aux Nouvelles-Hébrides, il est venu sur une île au moment où il y avait une terrible épidémie. Les personnes mouraient de maladies. Elle avait complètement décimé la population. Il est entré dans les huttes des malades et a essayé de prendre soin d'eux. il enterrait les morts, il s'occupait des mourants. Quand l'épidémie fut passée, il fut reçu par tous, ils l'aimèrent, et il resta avec eux. Il a d'abord essayé d'apprendre leur langue. Il a commencé à écouter leurs discours, à noter dans un cahier tous les mots et phrases qu'il avait appris. Les indigènes se sont habitués à ce qu'il avait toujours un cahier, et s'arrêtaient au milieu de la conversation pour écrire certaines choses. Il vint un temps alors où il décida qu'il devait traduire une partie de l'Évangile dans leur langue. Mais ils n'avaient aucun mot dans leur vocabulaire pour foi, confiance ou croire. Ils ne faisaient tout simplement confiance à personne. Mais vous ne pouvez pas faire beaucoup de traductions dans la Bible sans un mot pour cela. Alors il a commencé à réfléchir. Frustré un jour, il a commencé à chasser le cerf. Ils ont abattu un animal ressemblant à un cerf et plusieurs petits gibiers, et ont commencé à ramener la victime à la maison du missionnaire. Ils étaient à côté de l'équateur. Il faisait chaud, oppressant. La colline dans laquelle ils chassaient était sans piste, et ils sont finalement arrivés complètement épuisés. Ils ont laissé tomber leur lourd fardeau, et tous se sont effondrés sur l'herbe. Un natif a dit « Oh, il est bon de s'étirer ici à l'ombre !» John Patton s'est levé d'un bond, et avec enthousiasme. Il a demandé à ce compagnon de réciter cette phrase, encore et encore. Il a tout noté dans son cahier, puis il a traduit Jean 3,16 de cette manière. « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque s'étire ou se repose sur lui, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est la foi, et cela active la justice de Dieu en votre faveur. Merci, Père, pour le temps que nous avons partagé ce soir. Quelle bonne soirée. Je ne peux pas penser à être à un meilleur endroit, à moins d'être en ta présence. Je suis désolé pour ceux qui ne sont pas ici et qui manquent les témoignages, la joie, la vérité de la parole. Mais je te remercie pour ceux qui sont ici, par ta nomination divine. S'il y en a parmi nous qui n'ont pas encore expérimenté les merveilles du salut, puissent-ils savoir qu'avant de partir ce soir, leur vie est entre tes mains. Puissent-ils, par la foi, recevoir la puissance de Dieu pour le salut et être les destinataires de ta justice. Merci, Père, pour une bonne journée. Bénis chaque âme précieuse ici ce soir. Que cette vérité qui nous est donnée soit quelque chose que nous donnons aux autres pour qu'ils te connaissent, qu'ils aient la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.